Chapitre 3. Edmé signifie riche protecteur en vieil allemand. Edmé était bien protecteur puisqu'il bossait à la crime, mais il n'était pas riche puisqu'il bossait à la crime. Edmé, c'était seulement une lubie de mère défoncée par son accouchement. 24 heures de travail, écolo tendance pure et dure, elle avait refusé toute camisole chimique. Voilà comment on se retrouve avec un prénom à la con, aux prises avec une instabilité émotionnelle chronique. Le cadavre flottait entre les racines qui s'échappaient de la berge et déployaient leurs formes torturées dans l'eau boueuse de la Marne. Une femme, dont les vêtements déchirés dévoilaient une peau blême et gonflée. Le cœur de la nuit, serré par le jour livide, s'était retranché derrière les murailles épaisses et frissonnantes des frondaisons qui bordaient l'île aux loups et masquaient en grande partie les maisons alignées. Les grondements des voitures sur l'échangeur proche fendaient le silence de plomb. « Un vrai paradis !» songeait Edmé en arrivant sur les lieux. À deux pas de Paris, pas de passerelle ni de pont, pas de promeneurs, pas de joggeurs, pas de démarcheurs, pas d'emmerdeurs, seulement de la verdure, des oiseaux et des embarcations qui se balançaient mollement contre les pontons de bois. Un rêve pour bobo et artiste. Son collègue et lui avaient traversé la Marne à bord d'une antique barque appartenant à l'habitant de l'île qui avait découvert le corps. Marrant d'ailleurs de voir un jeune type en costume cravate, cadre bancaire, assurance, diriger son cercueil flottant avec la main sûre et la mine blasée d'un vieux marin d'eau douce. Une petite troupe, ameutée par la femme du costume cravate et encadrée par quatre gardiens de la paix, les avait accueillis sur la berge dans un curieux assortiment de robes de chambre, peignoirs, pyjamas et survêtements enfilés à la hâte. Les visages encore chiffonnés de sommeil ressemblaient à des masques de tragédie dans la lumière sale de l'aube.
« On touche surtout à rien, messieurs dames, on reste sagement à l'écart, on attend les techniciens. »
Paul Sérignon, le collègue d'Edmé, avait prononcé la phrase rituelle avant même de poser le pied sur le ponton. Des mots inutiles puisque les gardiens de la paix, parfaitement dressés, avaient tracé un premier périmètre de sécurité autour de la scène de crime. Paul, un prénom au passe-partout, un vrai bonheur, 35 ans, cheveux noirs et dru, déjà parsemés de fils blancs, récemment intégré à l'équipe, sixième de groupe, costaud, énergique, motard, originaire du Lot, accent du sud-ouest, un poil flambeur pour un nouveau. Edmé observa la morte. Type européen, plutôt forte, cheveux châtain clair et mi-long, assez jeune, la trentaine peut-être. Strangulation proclamait la trace sombre autour de son cou. On ne peut pas s'étrangler soi-même, on ne tombe pas comme une conne sur un fil d'acier ou une cordelette. Ce n'était ni un suicide, ni un accident. À première vue, ses vêtements imprégnés d'eau et de boue n'étaient pas de bonne qualité. Jean déchiré, baissé sur ses cuisses, chaussures de toile sans lacets, pull vert pomme élimé et passé par-dessus un t-shirt noir. On ne l'avait certainement pas assassiné pour son fric ou son téléphone portable dernier cri. Son bas-ventre à l'air indiquait plutôt une affaire de viol. Il y avait de fortes chances que les fouineurs et les légistes trouvent du sperme et du sang sur le cadavre, même dilué par un séjour prolongé dans l'eau. Un meurtre des bas-fonds, comme il s'en produisait régulièrement dans une métropole hantée par les hordes de miséreux. Une cinquantaine par an, règlement de compte entre affreux, sales et méchants, massacre pour un litre de pinard, un sandwich rance, une sordide histoire de cul. Les femmes s'y mettaient maintenant. Le mois dernier, sur les 12 meurtres commis dans le secteur de la crime, 3 restaient à élucider. 5 avaient été perpétrés par des hommes et 4 par des femmes. L'une avait égorgé son compagnon avec un tesson de bouteille. La deuxième avait massacré un sac à vin un peu trop entreprenant avec un flingue déniché Dieu sait où. La troisième avait étouffé son gosse de 6 mois avec un bout de plastique. La quatrième avait découpé une rivale en petits morceaux qu'elle avait disséminés dans les poubelles du quartier. La criminalité se déplaçait vers le terrain de la précarité. Rien d'étonnant. Depuis que le pays s'était converti au darwinisme social made in USA, la précarité, comme une lèpre, envahissait les rues et les places. C'est du moins le discours qu'aurait tenu Edmé, ex-militant de la Ligue communiste révolutionnaire, une trentaine d'années plus tôt. La plupart de ses collègues et de ses relations s'accommodaient de la situation. Tant qu'il n'incorporait pas l'armée des ombres se déployant chaque nuit sur les trottoirs, ils fermaient les yeux et cadenassaient leur conscience. Edmé mangeait comme eux à sa faim, disposait comme eux d'un logement chauffé l'hiver, d'une voiture, de vêtements de rechange, de quelques meubles, d'un écran à plasma et même d'un plan d'épargne fourgué un soir frileux par la nouvelle attachée de clientèle de sa banque aux arguments soudain convaincants, 95D. Mais il était de temps à autre rongé par les remords, ce qui distingue le gauchiste repenti du commun des mortels. Il vivait seul dans un minuscule deux pièces du 19e arrondissement, après une tentative catastrophique de vie en couple dans un deux pièces un peu plus grand du 11e arrondissement. Il était sorti de ses 10 années d'enfer conjugal avec une grande amertume, une sévère ponction sur son compte en banque et une misogynie affûtée. Sylvaine Teilhard, la troisième du groupe, la procédurière, l'avait d'ailleurs surnommée « le miso ». Un sobriquet repris par l'équipe, puis par l'ensemble de la brigade.
« Qu'est-ce que t'en penses ?» demanda Paul.
Sa pâleur n'était pas due à la seule lumière de l'aube. Il avait beau donner dans la mâchoire carrée, Paul Sérignon, il était toujours aussi mal à l'aise devant un cadavre. Et encore, celui-ci n'avait pas trop vilaine allure malgré ses boursouflures. Les gardiens de la paix, les bras ballants, levaient des yeux à la fois envieux et agacés sur leurs collègues. Les flics en uniforme n'avaient jamais pu blairer les frimeurs ingérables de la brigade criminelle.
« Comme toi, je suppose, » répondit Edmé à voix basse. « Dire qu'on était à deux petites heures de la fin de la permanence. J'irais bien me pieuter, moi. »
Le regard en biais que lui jeta Paul était chargé de réprobation. Connu pour déverser régulièrement les fonds vaseux de sa pensée, Edmé prenait un malin plaisir à entretenir sa réputation. Il ne tirait aucune fierté de trimer dans l'une des brigades les plus prestigieuses de Paris. Il répétait à l'envi que dans l'expression « fonctionnaire de police », c'était le mot « fonctionnaire » qu'il préférait. Il manquait d'ambition, raison pour laquelle sans doute il lui avait fallu 12 ans pour être muté à la crime et 15 pour se voir attribuer la place de deuxième de groupe. Il était resté lieutenant tandis que ses collègues, entrés dans la maison en même temps que lui, étaient tous passés capitaine, voire commissaire. Hormis deux, morts en service, les cons.
« Si je te comprends bien, on devrait laisser l'urbaine s'occuper de cette merde, » marmonna Paul avec une moue.
Edmé s'accroupit sur la berge pour mieux examiner le corps prisonnier des racines. La mort de cette femme était à l'image de sa vie, anonyme, misérable. Si son meurtrier était de son monde, du monde des ombres. Les éventuelles traces ADN dégotées par les fouineurs de la scientifique ne suffiraient pas à le retrouver. La banque de données ne contenait pas les empreintes génétiques de tous les SDF et autres marginaux d'Europe. On allait vers un fichage général de la population. Paranoïa terroriste oblige, volonté affichée de marquer les troupeaux, mais la tâche herculéenne ne serait sans doute pas achevée avant 50 ou 60 ans.
« Cette merde, comme tu dis, va nous faire perdre du temps. »
Pourtant, pendant qu'il prononçait ces mots, une impression, non, une certitude émergeait du fouillis de ses pensées. Cette scène de crime n'était pas aussi limpide qu'elle y paraissait. Il se secoua. On s'en tient aux faits, aux constatations, l'imagination est la meilleure ennemie d'un flic. Il scruta le visage de la morte, ses traits figés, sereins, ses yeux grands ouverts, comme s'il pouvait lui confier le secret de sa mort. Lui non plus, finalement, n'avait jamais réussi à s'habituer au cadavre qui pavait son existence de flic.
« On doit pas se bouger le cul pour des pouilleuses de son genre, c'est ce que tu penses, hein ?» lança Paul.
Edmé se retourna, comme piqué par un frelon, et décocha un regard venimeux à son collègue.
« Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une pouilleuse ?»«
Bah, ses fringues, son allure !»
Ils ne t'ont jamais appris à l'école de police, à ne jamais tirer de conclusions hâtives. Edmé parlait pour lui-même. Parler dispersait la brume en mitouflant ses pensées.
Rien ne dit que ses fringues lui appartiennent. Le meurtrier a pu lui enfiler pour brouiller les pistes. Attendons les conclusions des fouineurs.
Avoue que tu penses comme moi, le miso,
reprit Paul après un moment de silence.
T'aurais pas dit sinon que l'enquête allait nous faire perdre notre temps.
Edmé se releva. Une douleur vive monta de son genou gauche et le maintint quelques secondes plié en accordéon. Rotule bloquée. Son corps se déglinguait. Il repoussait l'opération depuis plus de 6 ans. Le toubib le menaçait d'être acculé à la prothèse, voire au fauteuil roulant s'il s'obstinait à fuir le billard. Sa santé lui échappait, comme sa vie. Il avait recommencé à fumer 1 an après le départ de sa femme,
éclusait ses 3 ou 4 verres de cognac le soir avant de se mettre au lit, mangeait n'importe quoi, n'importe quand, sans tenir compte de son taux de cholestérol ni de l'état de ses coronaires, avait cessé toute activité physique. Par miracle, il ne grossissait pas. Sans ses tempes blanches, sans ses rides profondes, sans son allure légèrement voûtée, son imper gris, sa veste grise et sa cravate grise, on aurait pu le confondre avec le jeune homme dont il était le souvenir affaissé, brouillé par les litres de café et de cognac, cabossé par les nuits d'insomnie et les incessants conflits avec le genre humain. Misanthrope lui aurait paru plus juste et plus flatteur que misogyne. Edmé sortit son paquet de cigarettes, en proposa une à Paul, qui refusa d'un mouvement de tête exaspéré, en alluma une, inhala une longue et âpre bouffée, la recracha avec une lenteur quasi masochiste par les narines et la bouche, fut aussitôt secouée par une violente quinte de toux.
90 chances sur 100 que c'est une SDF violée et étranglée par un autre SDF, marmonna-t-il, après s'être éclairci la gorge.
Mais on peut pas éliminer les 10% restants. Elle peut avoir été tuée par un habitant de l'île, par exemple.
Paul remua sa main en éventail devant son visage.
Tu devrais arrêter cette saloperie avant qu'elle te...
Je sais, les clous du cercueil.
Paul harcelait sans cesse les fumeurs du groupe, 5 sur 6, et ouvrait été comme hiver les fenêtres des bureaux du 36, quai des Orfèvres, pour combattre, disait-il, le génocide sournois du tabagisme passif. Sans compter l'interdiction totale de fumer dans les locaux publics. Que le chauffage, c'est-à-dire l'argent du contribuable, fiche le camp par les fenêtres, le sixième de groupe s'en cognait totalement.
Quand je parlais de perdre notre temps, c'était pas par rapport à elle, ajouta Edmé avec un sourire narquois. Je craignais seulement qu'on prolonge un peu trop nos heures de permanence.
Y a personne qui t'attend, non?
Qu'est-ce que t'en sais?
Tout le monde le sait.
Edmé faillit lui balancer une saillie virile du style. Elle peut pas m'attendre chez moi puisque je vais la voir chez toi, grand con. Il se contenta de tirer avec une colère rentrée sur son clope. Personne ne l'avait jamais attendu. Ni ses parents, toujours perdus dans d'improbables ailleurs, ni ses petites copines, toujours barrées les premières, ni sa femme, toujours sortie quand il rentrait, ni ses collègues, toujours mieux placés que lui.
Et alors, on n'a pas le droit d'être crevé?
L'équipe rappliqua au complet une demi-heure plus tard, soit une heure avant la fin de la permanence. Sylvaine Teilhard avait pris au passage 3 fouineurs au bureau de la police technique et scientifique. 2 tours de barque furent nécessaires pour transporter tout ce petit monde sur l'île aux loups. Ils s'affairaient maintenant en silence autour de la scène de crime. Les uns prenaient des photos, les autres fouillaient méthodiquement les herbes et les feuilles en quête d'objets, d'indices, de traces de pas. On avait prié les habitants de l'île de rentrer chez eux. On les interrogerait plus tard, au besoin. Le cortège des robes de chambre, peignoirs et pyjamas s'était dispersé avec la gravité compassée d'une procession funèbre. Le cadavre barbotait toujours dans l'eau glauque. Le soleil naissant le révélait plus gonflé, plus abîmé, plus obscène qu'Edmé ne l'avait estimé. On le maintiendrait dans sa prison végétale tant que les environs n'auraient pas été passés au peigne fin. Y compris la rivière que Granzard, le 4e du groupe, inspectait à bord de la vieille barque en compagnie d'un gardien de la paix visiblement peu rassuré. Il laissait aller l'embarcation à la dérive, en espérant qu'elle les conduirait à l'endroit où le courant, violent en cette période de l'année, déposait les détritus, les bouts de bois et les autres objets.
Si le meurtrier est un SDF ou qu'il vienne d'un autre secteur, il n'a sûrement pas piqué une coquille de noix pour transporter la victime, vivante ou morte,
avait déclaré Patrice Giovanni, le chef de groupe. Il aurait eu peur d'être surpris par des passants ou le propriétaire de la barque. Restait donc 2 possibilités, que le coupable soit un habitant de l'île ou que le crime ait été perpétré en amont et que le corps emporté par les remous ait fini sa course dans les racines des arbres de l'île aux loups.
Faudra sûrement faire l'expérience de jeter un truc de même taille et de même poids en amont, avait suggéré Blachon, un technicien aux yeux de chien battu. On saura d'où il est parti.
Edmé consulta son téléphone portable. 8h20,
20 minutes de temps supplémentaire, merde. Il avait passé une nuit cauchemardesque au Quai des Orfèvres, l'une de ces nuits où le sommeil s'agrippe à vos cheveux, à vos os, à vos cellules, et où le café, le tabac et l'ennui vous maintiennent des heures durant dans une torpeur hallucinée. On ne trouva rien de franchement exploitable sur la berge. Vieux paquets de cigarettes, bouteilles de bière vides, sacs plastiques, qu'on disposa par acquis de conscience dans les scellés. On résolut donc de libérer le corps des tentacules végétaux et de l'expédier à l'autopsie. L'hypothèse du meurtre commis en amont frôlait la certitude absolue, mais puisqu'on était déjà sur l'île, puisque l'autre équipe ne prendrait pas la relève avant une quarantaine de minutes, Giovanni envoya les 5 membres de l'équipe interroger les riverains. Flanqué d'Hassan Morselli, le 5e de groupe, Edmé, d'une humeur de dogue, se chargea des 4 habitations de l'extrémité ouest de l'île, coincées entre les piles d'un vieux viaduc réservé aux trains de marchandises. 3 maisons anciennes, au jardin bien entretenu, une baraque de bois et de tôle enfouie dans une végétation proliférante. « Ça doit être tout le temps inondé ici, » marmonna Morselli. Il avait une manie à San Morselli. C'était de laisser son blouson de cuir entrouvert pour, disait-il, pécho son SIG Pro 20-22 plus vite que le tireur d'en face. Edmé aurait compris si son équipier avait bossé au stup ou à l'anti-gang, mais à la crime, on intervenait après les meurtres et on n'avait presque jamais l'occasion de jouer les cow-boys. Lui, par exemple, avait tiré 5 ou 6 coups de feu en 15 années de carrière à la brigade. Et encore, 3 fois en l'air pour impressionner de pauvres bougres surpris dans leur trou à rats. Sans doute Hassan était-il fier d'exhiber la jolie petite bête qui dormait sous son aisselle dans son étui de cuir. Il avait fréquenté, adolescent, les milieux extrémistes musulmans de Seine-Saint-Denis, davantage fasciné à ses dires par le trafic d'armes que par l'étude des sourates coraniques. Il était maintenant habilité à porter un flingue, et pas n'importe lequel. Une merveille de technologie, fabrication suisse, précision et fiabilité garantie. Edmé gardait un fond de méfiance envers Hassan, vieux réflexe islamophobe d'un individu élevé dans les principes chrétiens et converti à l'âge de 18 ans à la foi révolutionnaire. L'un comme l'autre, l'ancien chrétien et l'ex-militant d'extrême-gauche, faisaient partie de l'écrasante majorité silencieuse qui, confortée dans ses certitudes par le 11 septembre 2001 et la litanie des attentats terroristes, pensait que la religion musulmane n'était pas compatible avec les principes démocratiques occidentaux. L'ex-membre de la LCR savait pourtant qu'il fallait se méfier des raisonnements simplistes, que les fanatismes religieux dissimulaient presque toujours des enjeux politiques, économiques et stratégiques. Mais il devenait paresseux avec l'âge, il se laissait couler dans le marécage du crétinisme ambiant, fatigué de nager à contre-courant. Son cerveau usé lui paraissait désormais incapable de produire ses propres pensées. La réflexion de Hassan était en tout cas frappé au coin du bon sens. Le petit bout de paradis était sans doute régulièrement inondé par les crues de la Marne. Rien n'est parfait sur cette planète. Ils sonnèrent à la première des maisons, dressée à 2 pas d'une pile du viaduc. Une jeune femme traversa le jardin d'une allure fatiguée et leur ouvrit le portail de bois à la peinture écaillée. Dans le berceau de ses bras, un nourrisson qu'elle venait tout juste d'allaiter. Des gouttes blanchâtres débordaient de la bouche du bébé. Le t-shirt de la mère était souillé et rabattu à la hâte sous sa robe de chambre entrouverte. Elle eut la très bonne idée d'offrir du café aux 2 flics. Elle ne se fit pas prier pour répondre à leurs questions. Seule avec son enfant depuis 10 de jours, son mari étant en déplacement à l'étranger, elle avait besoin de rompre une solitude et un silence qui commençaient à lui peser. Elle ne se maquillait plus, ne se changeait plus. Elle n'avait rien vu, rien entendu, rien remarqué. Elle ne savait même pas qu'on avait trouvé un cadavre sur l'île. Hassan lui demanda comment on faisait pour acheter une maison sur l'île aux loups. « Une affaire de famille, » répondit-elle. La maison appartenait à la tante de son mari. Elle la leur avait cédée à un très bon prix lorsqu'elle était devenue trop âgée pour manœuvrer sa barque sur la Marne et qu'elle s'était installée dans une maison de retraite. Edmé mit fin au flot torrentiel en se levant, en la remerciant pour le café et en lui disant qu'on reviendrait l'interroger au besoin.
« Elle m'a saoulé grave !» grommela Hassan dans l'allée du jardin.
« Fallait pas lui parler de sa maison, » lâcha Edmé.
« Heureusement que je l'ai pas relancé sur son gosse. »
Ils suivirent le chemin de terre qui longeait la rivière et menait vers la baraque de tôle et de bois. Ils ne distinguaient pour l'instant que le toit rouillé et la haute antenne râteau au milieu du chaos végétal mal contenu par une clôture de barbelés. La barrière défoncée de l'entrée donnait sur un passage étroit grossièrement taillé entre les buissons et les arbres. Ils n'eurent pas le temps de la pousser. Un coup de feu retentit. La balle miaula à quelques centimètres de la tête d'Edmé. Un choc sourd retentit derrière lui, suivi d'un gémissement étouffé, puis du froissement prolongé d'un corps s'affaissant comme un sac de chiffon sur la terre du chemin.